Je vais donc poursuivre ce matin cette nouvelle série de prédications sur les dons de l'Esprit qui a été très bien introduite des échos que j'ai eus par le pasteur Xavier dimanche dernier. Il aurait pu au moins y avoir un ou deux « Amen » qui auraient été un encouragement pour le pasteur Xavier. Donc, il a été très bien introduite par le pasteur Xavier la semaine dernière. Tu vois, ça marche, hein. Et j'aimerais, sans plus tarder, prier pour cette série, pour ce message, mais aussi pour cette série de messages qui va se poursuivre quelques dimanches. Et même aussi, j'aimerais vous le dire, Xavier, dans toutes ses annonces, n'a pas forcément eu le temps de le préciser, mais on a pensé bon, le pasteur Xavier et moi-même, de continuer, de poursuivre également cet enseignement. Et au-delà de l'enseignement, de vivre aussi les choses avec vous sur ces dons de l'Esprit les mardis soirs. Donc nous poursuivrons dès mardi prochain. On aura déjà prêché deux messages. Donc on aura des moments d'échange interactifs. On pourra revenir avec vous sur des questions que vous pouvez avoir face à ce que vous avez entendu le dimanche. Vous écoutez sagement, mais vous ne pouvez pas vous manifester, vous ne pouvez pas intervenir et nous interpeller ou poser des questions directement. Mais le mardi, on peut favoriser cela et pour non seulement donc mieux comprendre, partager peut-être aussi des expériences et aussi expérimenter ce que nous enseignons. Amen. Et c'est aussi ma prière. Alors, sans plus tarder, si vous le voulez bien, on va s'incliner dans la prière avant de commencer ce message. Père, je te prie pour que cette série de messages permettent à chacun d'avoir une saine compréhension de ces dons de l'Esprit, pour mieux y aspirer, pour mieux les expérimenter et pour mieux les pratiquer. Je te prie pour qu'un grand nombre croissant d'hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, connaissent des vies et des ministères revitalisés, renouvelés et redirigés par l'exercice de ces dons spirituels. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. L'apôtre Paul, le pasteur Paul, un érudit d'il y a 2000 ans, va lister 9 dons spécifiques du Saint-Esprit. Et nous allons relire ce texte, ce passage de référence dans la première lettre ou épître, si vous voulez, à l'église de Corinthe. Et si vous avez votre Bible, je vous invite vraiment à l'ouvrir parce qu'on va faire plusieurs lectures ce matin dans cette même lettre, cette première lettre que Paul va écrire aux chrétiens de Corinthe, donc 1 Corinthiens au chapitre 12. Et on va lire ensemble, vous qui avez votre Bible, eh bien, avec ce texte devant les yeux, que vous pouvez partager avec votre voisin, votre voisine, avec le texte qui s'affiche également à l'écran, dans une version, la version Louis II, et moi je vais le lire dans une autre version, la version Semeur. D'ailleurs, c'est très intéressant que l'apôtre Paul, dès le début du chapitre 12, va dire « J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. » Et si nous avons eu à cœur, pasteur Xavier et moi-même, eh bien de vous partager, vous proclamer, vous prêcher cette série d'enseignements, c'est pour que nous soyons bien au clair là-dessus. Et au verset 7, voici ce que donc l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre par ce seul et même esprit des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre Il est donné de prophétiser et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Amen. J'aimerais, dans une introduction qui va être peut-être un peu longue, mais en tout cas, rappeler quatre points importants concernant tous ces dons. Quatre points importants concernant tous ces dons que nous venons d'énumérer dans cette lecture. Le premier point, c'est que ce sont des dons spirituels. Ils ne peuvent pas s'acquérir ou être gagnés. Ce ne sont pas des preuves de nos mérites. Ils sont donnés comme des cadeaux. Ils sont donnés par Dieu à son entière discrétion et ils doivent être reçus par vous, par moi, comme une simple réponse de foi. Il ne faut pas du temps, de l'expérience, un certain nombre d'années de conversion, si vous voulez, pour recevoir les dons spirituels. Cela est dit nulle part dans la parole de Dieu. Ce premier point, c'est que ce sont des dons spirituels. Le deuxième point, à la fois au début et à la fin de cette liste, Paul utilise la phrase ou l'expression « à chacun ». Au début, il dit « à chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun ». Puis à la fin de notre lecture, au verset 11, on a lu « mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun ». Ainsi, au début et à la fin de cette liste des dons spirituels, Paul insiste sur le fait qu'ils sont pour chacun. Ils sont rendus disponibles pour tous les croyants. Attention, j'aimerais quand même mettre là deux conditions. Pour tous les croyants nés de nouveau et qui ont une soif spirituelle. Dieu va donner ses cadeaux, ses dons spirituels à ceux qui sont nés de nouveau et qui ont soif, qui aspirent, comme dit l'apôtre Paul, qui les désirent. Ma conviction personnelle est que Dieu désire que tous les croyants participent à l'exercice de ses dons. Ils ne sont pas réservés à une certaine dénomination ou à une minorité privilégiée, ils sont pour chacun. Donc tu peux être éligible, mon frère, ma sœur, mon ami, pour bénéficier de ce cadeau. 2 mois avant Noël, c'est possible. Troisième point important concernant ces dons, c'est que Paul décrit ces dons comme par un mot clé, manifestation. Le terme manifestation indique quelque chose de perceptible par les sens humains. Le Saint-Esprit lui-même, on le sait, en tant que personne demeurant dans le croyant, est invisible. Il ne peut pas être perçu par les sens. Mais à travers les dons que le Saint-Esprit manifeste lui-même, à travers un croyant dans un espace temps donné, eh bien, comme conséquence de ces dons, nous sommes conscients que le Saint-Esprit est là parce que nous le percevons avec nos sens. Donc le mot-clé ici, c'est manifestation. Chacun de ces dons a un impact quelque part dans un espace-temps donné que nous pouvons percevoir par nos sens. Que ce soit l'ouïe, que ce soit la vue, que ce soit le toucher, on peut percevoir à un moment la manifestation de l'esprit. Le quatrième point, c'est que les dons sont surnaturels. Ils sont des manifestations de Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit et ils sont toujours à un niveau plus haut que les capacités humaines ou que l'éducation pourrait nous permettre d'atteindre par nous-mêmes. Donc, premièrement, je résume ces 4 points importants et simplement, ce sont des dons, ils ne peuvent pas être gagnés par tes mérites. Deuxièmement, ils sont à la disposition de chacun. Troisièmement, le mot-clé, c'est manifestation. Ils produisent des résultats qui peuvent être perçus par nos sens. Et quatrièmement, ils sont toujours surnaturels. Maintenant, quatre raisons que j'aimerais vous partager pour lesquelles ces dons nous ont été rendus disponibles par Dieu, ou j'aimerais vous suggérer quatre buts qu'ils accomplissent. Quatre buts que ces dons spirituels, surnaturels accomplissent. Le premier est que les dons donnent la place à la souveraineté de Dieu. Dieu a le contrôle suprême de son Église et il ne veut pas que quelque chose dans l'Église qui soit purement sous la direction humaine et ne laisse aucune place à son intervention ou à sa puissance. D'autrement, quand tout est contrôlé par l'homme, Dieu n'y est plus. Et là, ça devient une institution. Mais à travers ces dons surnaturels, Dieu peut intervenir, Dieu peut manifester sa souveraineté, son contrôle ultime et suprême sur toute l'Église. Ça, c'est la première raison, premier but qu'ils accomplissent. Le deuxième, c'est que les dons nous élèvent au-dessus du domaine de nos capacités naturelles. Et ça, c'est très important. J'ai essayé d'imaginer. Est-ce que vous avez déjà essayé de découvrir ce qui se passerait si nous enlevions toutes les références aux manifestations surnaturelles dans le livre des Actes? Vous lisez, vous reprenez, si vous voulez, le livre des Actes des apôtres, qu'on devrait appeler les Actes du Saint-Esprit. Et vous enlevez tout ce qui est manifestation surnaturelle. Eh bien, aucun de ces 28 chapitres ne resterait intact. Donc, pour ma part, je suis intellectuellement convaincu, en m'appuyant sur le Nouveau Testament, que le christianisme nécessite une foi surnaturelle. Ce ne peut pas être qu'une foi intellectuelle. Ça nécessite une foi surnaturelle. Le troisième but de ces dons, eh bien, c'est qu'ils confirment notre témoignage de Jésus-Christ. Cela est clairement établi quand Paul, toujours à ses chrétiens de Corinthe, nous dit dans sa première lettre, mais au chapitre 1, « Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous êtes devenus riches de tout. » Ça, quand je l'ai lu, ça m'a fait du bien. Pas pour vous, parfois on se croit un petit peu pauvre. Hein, il nous manque toujours quelque chose. Je parle pas que sur le plan matériel. Et là, il me rappelle, Laurent, t'es riche de tout. Oh, ça fait du bien. De toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce. En attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, un des objectifs majeurs de ces dons est de confirmer ou renforcer notre témoignage de Jésus-Christ parmi son peuple, parmi son Église. Le quatrième but de ces dons, eh bien, c'est qu'ils permettent à tous les croyants, à chacun, à tous les croyants, de contribuer au bien commun. Ce qui est la raison que Paul établit pour ces dons dans 1 Corinthiens 12. C'est très significatif. Parce qu'immédiatement après avoir listé ces 9 dons que nous avons lus ensemble, il parle du corps. Et là, quand il parle du corps, comprenons qu'il parle des membres, il parle du corps de Christ, il parle de nous. Il prend une image, un symbole du corps physique, mais il parle du corps de Christ qui est l'Église et de ses membres, parce que les dons spirituels sont un des premiers moyens avec lesquels les membres du corps, vous et moi, pouvons contribuer pour le bien commun. D'ailleurs, dans cette lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 26, Paul déclare ceci au sujet des rassemblements de l'Église. Comment donc agir, mes frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Mais que tout cela servent à faire grandir l'Église dans la foi. Donc, vous voyez que les dons sont disponibles. Les croyants ne viennent pas à une réunion juste pour recevoir ou juste pour écouter, mais ils ont à contribuer. Contribuer à l'aide des capacités spirituelles surnaturelles qu'ils ont reçues ou qu'ils vont recevoir à travers ces dons que Dieu veut nous donner. Maintenant, dans notre texte de référence, 1 Corinthiens 12, Paul fait mention au verset 13, nous pouvons le lire ensemble si vous voulez, 1 Corinthiens 12, je vous avais dit, laissez votre Bible bien ouverte, au verset 13, il nous dit, « En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Paul, ici, fait mention, verset 13, au baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui nous amène à cette question intéressante. Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit est la porte d'entrée pour recevoir ces dons spirituels? Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit est la porte d'entrée pour recevoir ces dons spirituels? Avant de répondre à cette question, comme le dit le pasteur David Petz, qui est un pasteur anglophone des Assemblées de Dieu et qui a écrit un livre sur justement les dons spirituels, qui est un livre que nous étudions avec pasteur Xavier, il dit la chose suivante. Il est important d'établir un principe fondamental. Et j'aimerais que nous puissions bien comprendre ensemble, c'est pour ça que je vais le citer, ce principe fondamental. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on voit et on en entend de toutes les couleurs concernant ces manifestations de l'esprit. Et voici le principe fondamental que Paul a posé, que Jésus a posé, et qu'il est important pour nous de considérer. Donc c'est le pasteur David Petz qui dit ceci. Nous devons décider de ce que nous croyons sur la base de ce que nous comprenons de l'enseignement de la Bible et non pas sur la base de notre expérience. Tu comprends la nuance? Tu peux vivre des expériences et te dire ben « c'est comme ça que le Saint-Esprit agit et c'est comme ça que le Saint-Esprit devrait agir dans ta vie et dans l'Église ». Et là, David Petz me dit « non, c'est pas comme ça que ça se passe ». On doit décider de ce que l'on croit sur la base de ce que nous comprenons de l'enseignement de la Bible et pas sur la base de notre expérience. Ainsi, nous pouvons évaluer notre expérience à la lumière des Écritures. Est-ce que ce que je vis, quelque part, est écrit dans la parole de Dieu, expliqué dans la parole de Dieu? Plutôt que d'essayer de lire notre expérience dans la parole de Dieu. Et vous, il y en a qui vont vivre des expériences et puis ils vont tout chercher à justifier dans la parole de Dieu avec des versets qui vont les intéresser. Et c'est comme ça que nous vivons ou que nous entendons des dérives sous le couvert des manifestations de l'esprit. J'aimais bien, c'est pour ça que je voulais partager ce principe fondamental qui est important que pasteur Xavier et moi-même dans l'équipe pastorale nous partageons et qui sera un principe très important aussi pour la vie de cette Église. Est-ce que ce que nous vivons correspond à une réalité biblique? Parce que ce que tu vis, tu ne peux pas en faire un principe biblique. D'accord? Ça ne remet pas en cause quelque chose que tu peux vivre avec le Saint-Esprit, différent de ce que je peux le vivre. À mon avis, il est juste de comprendre que le baptême du Saint-Esprit est la porte d'entrée de ces dons de l'Esprit. À cause de deux choses, à cause de la séquence des événements dans les actes, On voit que le fait d'être rempli ou baptisé ou d'avoir reçu le don de l'Esprit, les termes sont interchangeables mais veulent dire à peu près la même chose, est toujours survenu avant la manifestation des dons spirituels. Les premiers disciples ont commencé à parler en langue après avoir été remplis du Saint-Esprit, acte 2. Même chose pour Corneille et sa maison. Même chose pour ces 12 Éphésiens que vous retrouverez dans acte 19. La deuxième raison pour comprendre que le baptême du Saint-Esprit est la porte d'entrée de ces dons de l'Esprit, c'est que la signification de 1 Corinthiens 12, 13 que nous avons lu, si on a une juste compréhension de ce passage, alors on comprend que le baptême du Saint-Esprit est la porte d'entrée des dons spirituels. Je l'exprimerai de cette façon. Comment quelqu'un pourrait s'attendre à manifester les dons venant de l'Esprit sans être d'abord rempli de l'Esprit lui-même? Je répète, comment quelqu'un pourrait s'attendre à manifester les dons venant de l'Esprit lui-même sans être d'abord rempli de l'Esprit lui-même? Après avoir vu ensemble 4 points importants concernant les dons et 4 buts qu'ils accomplissent, j'aimerais qu'on s'attarde donc plus spécifiquement ce matin sur les dons des langues et interprétation des langues. On va associer ces deux dons, le don des langues et le don d'interprétation, parce que le parler en langue doit bien évidemment se pratiquer avant que le don d'interprétation des langues puisse s'exercer. Et on voit qu'ils sont étroitement liés, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Vous me suivez jusque-là ? En fait, la première fois qu'il est question de parler en langue, c'est dans le récit du jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, Jésus a été élevé, glorifié, le Saint-Esprit, comme il l'avait promis, est descendu, et les croyants qui attendaient, notamment les 120, qui étaient dans cette chambre haute à Jérusalem, les croyants qui attendaient furent remplis. Le résultat immédiat fut qu'ils commencèrent à parler dans d'autres langues ou langages, selon ce que le Saint-Esprit leur inspirait. Cela va rassembler une foule de juifs qui venaient des 4 coins de l'Empire romain et qui étaient venus célébrer la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et là, les juifs qui étaient venus des 4 coins de l'Empire romain comprirent les langues. Peut-être pas toutes, mais en ont compris quelques-unes que les disciples parlaient. Et ils savaient également que les disciples, eux, ne les comprenaient pas. Ils n'étaient que de simples Galiléens, nous dit la Bible. Nous pouvons donc définir le don des langues de cette façon. Le don des langues, c'est comme la capacité surnaturelle communiquée par le Saint-Esprit de parler une langue qu'on n'a jamais apprise. Parler en d'autres langues ou en une langue inconnue signifie que le croyant, au travers de la direction de l'aide surnaturelle du Saint-Esprit, va parler une langue qu'il n'a pas apprise et qu'il ne comprend pas, mais qui pourrait être comprise s'il y avait une personne présente connaissant cette langue. Mon épouse me racontait, Damaris était avec les enfants ce matin, donc je lui ai prêché mon message hier soir. Bah oui, je ne voulais pas qu'elle soit jalouse quand même. Et aussi pour voir si elle comprenait ce que j'allais lui raconter. Si mon message n'allait pas être un parler en langue inconnue. Elle me partageait une expérience, elle me dit, ça me rappelle quelque chose, une fois dans l'église dont elle est originaire, du centre de la France, il y a une sœur simple, une dame simple, qui a commencé à parler en langue. Et elle parlait en hébreu, langue qu'elle n'avait jamais apprise. Elle ne connaissait pas l'hébreu, elle n'avait pas fait de cours, d'école pour apprendre l'hébreu. Et il s'avère que ce jour-là, dans l'église, il y avait un juif de passage qui était venu pour la première fois dans cette église. Et donc, il a pu confirmer que ce que la sœur disait, ce que cette dame disait dans une langue qu'elle ne comprenait pas, était de l'hébreu que lui avait compris. Et donc ce message était pour lui. Il y en a un certain nombre d'anecdotes comme ça. Ce n'est pas tous les dimanches que nous vivons ça, ou dans forcément toutes les églises. Mais il y a plusieurs anecdotes que j'ai lues aussi, David Petz, le pasteur, en raconte. D'autres pasteurs, je lisais aussi ce témoignage d'une jeune fille qui avait ramené son copain, son petit copain, qui était gallois, dans une église, donc où on parlait l'anglais. Et il venait pour la première fois, il ne connaissait pas les églises, il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Dieu, mais il s'y intéressait. Et une dame, pareil, a parlé en gallois. Alors qu'elle n'a jamais... Vous savez, le gallois, c'est très spécifique comme langue. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les noms au Pays de Galles ou vous avez entendu parler gallois, mais c'est vraiment très particulier comme langue. Rien à voir avec l'anglais. Et ce jeune homme, à la fin, a été voir le pasteur en lui disant « Mais je ne comprends pas comment cette dame a pu dévoiler des péchés de ma vie !» Et le pasteur a mis 10 minutes pour essayer de lui expliquer le phénomène qui était en train de se passer. Et le pasteur raconte qu'en plus, ce jeune garçon qui s'est converti allait devenir son gendre après. Donc ça, c'est la suite de l'histoire. Maintenant, je vois deux fonctions différentes du parler en langue. La première, vous êtes dans une église assemblée de Dieu, pentecôtiste. Je suis un pasteur assemblée de Dieu du mouvement de Pentecôte. Donc nous avons une certaine compréhension des Écritures qu'on peut appeler théologie, et notamment sur ce phénomène surnaturel du parler en langue. La première fonction que je vois, c'est que c'est la preuve tangible du baptême du Saint-Esprit, telle qu'elle est relatée dans le livre des Actes. Cette expérience du parler en langue, ce n'est pas une expérience d'un jour ou d'une fois. C'est le début d'une expérience que tu vis, bien sûr, surnaturellement, avec le Saint-Esprit qui vit en toi et qui ensuite t'encourage à poursuivre cette relation, cette pratique du parler en langue dans ta vie de tous les jours, en étant rempli de l'Esprit en tant que moyen privilégié pour prier et pour grandir spirituellement dans la foi. Et Paul évoque aussi une deuxième fonction du parler en langue, dans 1 Corinthiens 12, où il donne la liste des 9 manifestations de dons que Dieu accorde aux croyants pour les aider dans divers ministères et aussi dans le culte au sein de l'Église. Et dans ce contexte, Paul demande, il pose cette question, tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? C'est une question que vous allez voir un petit peu plus loin dans la lettre aux Corinthiens. Ce que je comprends par là, c'est que tous les chrétiens sont appelés à recevoir le don du Saint-Esprit, à être remplis de l'Esprit, à aspirer aux dons les meilleurs. Mais tous ne sont pas appelés à exercer le don des langues et l'interprétation des langues lors du culte public. Est-ce que vous voyez la nuance? Nous sommes tous appelés à recevoir le don du Saint-Esprit, à aspirer aux dons les meilleurs, comme nous y encourage Paul. Mais tous ne sont pas appelés forcément à exercer le don, puisque c'est Dieu qui le donne à qui il veut, quand il veut. Alors, je poursuis dans la dernière partie de ce message avec 4 raisons bibliques. Il y en a sans doute bien d'autres, mais au moins 4 raisons essentielles, 4 raisons bibliques pour lesquelles un chrétien devrait parler en langue. 4 raisons bibliques pour lesquelles un chrétien né de nouveau, qui a soif de vivre près de Dieu et conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne, devrait parler en langue. La première raison qui, je pense, est fondamentale et capitale est celle de la communion directe avec Dieu, qui nous édifie personnellement. Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » C'est très clair. Lorsque quelqu'un parle dans une langue inconnue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, il parle par le Saint-Esprit, il parle de mystères, ce qui veut dire des choses que l'intelligence naturelle, notre intellect, ne peut pas saisir. Ne peut pas saisir pleinement. Et d'ailleurs, deux versets plus loin, Paul dira, 1 Corinthiens 14, 4, il dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » S'édifier soi-même, s'édifie lui-même. Même si nous ne comprenons pas intellectuellement ce que nous faisons, ce que nous disons, lorsque nous parlons à Dieu dans une langue, nous parlons de mystère et nous nous édifions nous-mêmes spirituellement, en privé, dans notre culte personnel. D'ailleurs, Jude, au verset 20, le dira aussi, « Édifiez-vous par le Saint-Esprit ». Et on voit aussi que Paul va mettre un accent important sur le fait de parler en langue, mais surtout, surtout dans ces moments privés, surtout dans ces moments d'intimité avec Dieu, dans ces moments seuls avec Dieu. Et c'est là où il encourage fortement de parler en langue. Ça, c'est la première raison, une communion directe qui nous édifie personnellement. La deuxième raison biblique que je vois pour laquelle un chrétien, toi et moi, devrions parler en langue, c'est que Paul continue dans toujours sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 14 et 15, il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit. » Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Paul indique ici qu'il y a plus d'une manière de prier. Il y a celle de prier par l'esprit, qui fait que nous ne comprenons pas avec notre intelligence ce que nous disons. Et parler en langue, j'aimerais vous dire, peut aider à exprimer ce qui est dans ton esprit et qui ne peut pas être exprimé avec tes propres mots. Il y a un moment où, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, en relation intime avec Dieu, dans sa présence, les mots de notre langue naturelle, maternelle, ne suffisent plus. On se sent limité. Et pourtant, il y a encore tellement de choses à l'intérieur de nous qui avons envie de s'exprimer. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes appelés à parler en langue. Il y a un moment, c'est comme si tes mots de ta langue française ou de ta langue natale, ne sont pas suffisants pour exprimer à Dieu tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens. Et Dieu a permis qu'il y ait une autre langue, se parler en langue, qui fait qu'à un moment, c'est comme si le bouchon, ça sautait, et là, tu t'exprimes devant Dieu. Tu comprends pas tout ce que tu dis, ton intelligence ne contrôle pas ça, et je te l'ai dit dans un des points, c'est Dieu qui est souverain, parce qu'il ne veut pas que ce soit l'intellect qui dirige tout. Parce que quand Dieu, on l'a dit, on a chanté, Dieu tu es roi, Jésus tu es roi, Jésus tu règnes, ça veut dire tu es souverain à un moment. Et ce n'est pas mon intellect qui doit être souverain, vouloir tout raisonner, tout expliquer. Et donc, dans ces cas-là, nous limitons l'action de Dieu. Nous la freinons même, l'action de Dieu, même dans notre vie. Et donc, dans notre relation avec lui. Il y a une autre manière, bien sûr, de prier. Il y a le prier par l'esprit, mais aussi prier avec notre intelligence, dans notre langue maternelle, lorsque celle-ci est totalement consciente de ce que nous disons. Paul dit que les deux sont légitimes. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de prier avec notre intelligence et nous avons besoin aussi de prier par l'Esprit, avec l'Esprit. Paul dit que les deux sont légitimes parce qu'il dit « je prierai, je chanterai, même je remercierai avec l'Esprit ». Mais il dit aussi « je prierai, je chanterai avec mon intelligence ». La troisième raison pour laquelle un chrétien devrait parler en langue, une langue inconnue, c'est le fait qu'une langue inconnue puisse être un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, 22, toujours dans cette lettre aux Corinthiens, là on est au chapitre 14, un petit peu plus loin, où Paul dit « Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants ». C'est Paul qui le dit, hein. Ça je vous ai dit, gardez votre Bible ouverte, regardez avec moi ce qui est écrit dans la parole. Remarquez que les langues sont là pour être un signe pour les non-croyants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Bah, revenons un instant au jour de la Pentecôte. Que s'est-il passé ? Le Saint-Esprit est venu sur les disciples et ils ont été remplis. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne comprenaient pas, des langues inconnues. Mais les incroyants, rassemblés là, eux reconnurent les langues. Et ils furent impressionnés en réalisant que ces hommes parlaient ces langues couramment et parfaitement. Des langues qu'eux-mêmes, comprenaient, mais que les hommes qui les parlaient ne comprenaient pas. Et donc, par conséquent, on voit dans ce passage que leur attention va être captivée, attirée, et cela va les préparer à recevoir le message que Pierre va leur prêcher par la suite. Et résultat, 3000 âmes furent sauvées. Le cœur de ces hommes, de ces femmes qui étaient incroyants, a été préparé pour recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Et de cette façon, encore aujourd'hui, je le crois, cela peut bénéficier à ceux qui assistent à une réunion, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Donc c'est une des raisons, ce don des langues inconnues puisse être un signe pour les non-croyants. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. La quatrième raison, c'est lorsqu'une parole est donnée en public, dans une assemblée, en public comme par exemple dans un culte, une réunion comme celle-ci, dans une langue inconnue, et qu'elle est suivie de son interprétation dans une langue connue. Donc on va définir ensemble ce qu'est le terme « interprétation » à la lumière de ce que nous venons de dire. On a vu la définition du don des langues, une langue qui est inconnue, communiquée par le Saint-Esprit, et la capacité surnaturelle, communiquée par le Saint-Esprit de parler une langue qu'on n'a jamais apprise. L'interprétation, c'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'exprimer dans une langue connue la signification de ce qui a été dit auparavant dans une langue inconnue. Cependant, la personne qui donne l'interprétation peut être la même que celle qui a donné la parole dans une langue inconnue ou bien une autre. Et là, la Bible laisse le choix entre les deux possibilités. Donc, la personne parle dans une langue inconnue et elle peut interpréter, ou ça peut être une autre personne qui va interpréter cette langue inconnue dans une langue connue. Paul nous dit la chose suivante, on retrouve toujours dans 1 Corinthiens 14, on navigue dans ce chapitre ensemble. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » La prophétie, ce sera un don dont on parlera dans un prochain message. Je désire que vous parliez tous en langue. Ah, Paul nous dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Voyez-vous, lorsque les langues sont suivies d'interprétation, la signification des langues est communiquée aux personnes qui peuvent l'entendre et la comprendre, et en conséquence, elle produit le même effet que celui d'une prophétie. Donc le don des langues, conjugué à celui d'interpréter, est mis au même niveau que la prophétie. Maintenant, Paul continue en disant ceci, versets 12 et 13. « De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, » et là, il martèle la chose, et c'est là qu'on doit vraiment bien, nous, ensemble, bien comprendre. « Puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église. » Ou il a dit autrement parfois, que ce soit pour qu'elle grandisse dans la foi. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alors pourquoi devrait-il prier ainsi ? Parce qu'il devrait désirer édifier d'autres personnes que lui-même. Lorsqu'il parle en langue, lorsque la personne parle en langue, elle s'édifie elle-même, d'accord ? Mais lorsqu'il prophétise ou interprète ce qui a été dit en langue, alors il édifie les autres. Pour terminer ce message, vous le comprenez, qui est plus de l'enseignement, il est important d'examiner les règles pour pratiquer à la fois la prophétie et l'interprétation que Paul donne dans 1 Corinthiens 14. C'est-à-dire que tous ces dons que l'Église de Corinthe avait, que les Corinthiens avaient, il y a un moment, ils les pratiquaient, mais on va dire le mot comme ça, c'était un peu le bazar dans le culte. Ça allait dans tous les sens. Ça s'exprimait dans tous les sens. Alors, ils étaient riches des dons, mais ils n'avaient pas, en fait, quelque part, tout simplement, appris à comment les canaliser, comment bien les vivre, dans l'intérêt commun, dans le but de l'édification de l'Église. Sinon, là, ça commençait à devenir un contre-témoignage. Alors, Paul va aussi donner quelques règles pratiques pour vivre ces dons. Il dira... 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères et sœurs ? Ça vous va si on rajoute sœurs également ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. Vous en remarquerez encore une fois que le but ultime est toujours l'édification. Et au travers de ces dons surnaturels, lorsque le peuple de Dieu se rassemble, chacun peut recevoir quelque chose de Dieu pour y contribuer. Cela rend tous les membres du corps potentiellement actifs. Et Paul continue en disant à propos du parler en langue, « En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois, au plus, parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Paul dit qu'une parole en langue inconnue n'a pas sa place dans l'assemblée si elle n'est pas suivie d'interprétation. Donc une personne qui donne une telle parole devrait être capable de l'interpréter elle-même ou avoir confiance dans le fait qu'une autre personne présente pourra en donner l'interprétation. Autrement, il est légitime que cette personne parle en langue, mais pas à voix haute. Tu peux être ici le dimanche, parler à Dieu, t'édifier, parler en langue, mais à voix basse. Il est parfaitement légitime de le faire pour nous-mêmes à voix basse. Et lorsqu'une personne agit selon le Saint-Esprit, c'est toujours Paul qui nous le dit, elle garde toujours le contrôle d'elle-même. Écoutez-moi bien, c'est hyper important ça. Lorsqu'une personne parle par le Saint-Esprit, elle garde le contrôle d'elle-même. Une personne qui fait quelque chose d'insensé, de déplacé, et qui ensuite jette, on va dire, le blâme sur le Saint-Esprit en disant « c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire cela », n'est pas en cohérence avec la parole de Dieu. On l'a vu ensemble dans le fruit de l'esprit, la maîtrise de toi-même. Le Saint-Esprit ne manipule pas un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit reste cohérent avec la parole de Dieu. S'il nous dit que tout doit être fait pour l'édification du corps de Christ, alors il ne va pas commencer à favoriser des manifestations ubuesques. Bizarroïdes. Et tout est résumé dans cette déclaration. Écoutez bien, je ne veux pas accentuer le côté parce qu'il y en a des trucs bizarres, mais dans cette déclaration, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais il apporte la paix dans toutes les assemblées des saints. Nous voyons donc que les conseils de Paul ont deux finalités. L'édification, bâtir, construire, et l'ordre. L'édification et l'ordre. Et donc, je terminerai avec cette prière avec vous où nous pourrons aller plus loin, comme je l'ai dit, les mardis soirs également. Si nous avons été baptisés dans l'Esprit, nous devrions continuer avec les dons, en les désirant ardemment. Comme Paul le dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et en priant pour les avoir. Voilà une prière que tu peux formuler dans tes moments intimes, dans tes moments personnels, privés. Voilà une prière que nous pouvons formuler aussi lorsque nous sommes ensemble, collectivement, de prier pour que l'Église aspire aux dons les meilleurs. Pour bien les comprendre. D'où l'enseignement que nous faisons. Pour bien les expérimenter et les exercer. Et on reviendra plus en détail dans un prochain message aussi sur la réception de ces dons. Mais si nous n'avons pas reçu le baptême de l'Esprit, ben nous devrions demander à Dieu de nous remplir aujourd'hui. Parce que notre Père Céleste donne vraiment le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et Jésus a dit que si nous avons soif, nous boirons. Alors tournons-nous vers lui ce midi par la foi. J'aimerais vous dire, il ne nous décevra pas. Tournons-nous vers lui par la foi. On se lève ensemble. On prie ensemble. J'aime quand l'Église prie ensemble. J'aime quand les uns et les autres nous élevons notre voix avec les sentiments, avec la personnalité que nous avons, parce que c'est ça la richesse et la beauté de l'Église, mais avec le même esprit. Le même esprit. Alléluia. Père, entends ton Église maintenant, ton peuple, l'Église aimée qui élève sa voix vers toi avec foi. Parce que nous voulons, Seigneur, mieux comprendre ta parole. Nous voulons mieux comprendre ces manifestations de l'Esprit. Merci de nous avoir mis à cœur de nous plonger dans ta parole pour étudier, pour réfléchir, pour nous questionner, peut-être nous repositionner, en tout cas pour y aspirer, pour les expérimenter, les exercer. Et Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, l'Église, soit édifiée, soit bâtie sur de bons fondements, pour que, Seigneur, des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas, Seigneur, viennent à la lumière de l'Évangile, viennent, Seigneur, goûter la vérité, eh bien, de la bonne nouvelle du salut. Et, Seigneur, nous te prions, aide-nous dans ce cheminement tout au long de cette série de messages, dimanche et mardi, à la maison comme à l'église. Seigneur, nous voulons aspirer à ses dons. Nous voulons être un peuple, une église, comme l'église primitive, comme l'église des premiers temps, et qui, simplement par la foi, s'attendait à recevoir les cadeaux de Dieu, du Père Céleste, et de les exprimer, non pas pour eux-mêmes, mais pour que ton église avance, progresse, pour que des âmes soient sauvées, pour que le peuple soit édifié, fortifié, bâti, construit sur de bons fondements et d'une manière surnaturelle, où ce ne sont pas que des méthodes humaines qui prennent place, mais où il y a toujours une manifestation surnaturelle de Dieu. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, pour ce matin, pour cet après-midi, concernant Quartier Libre, nous te demandons une manifestation surnaturelle. C'est ce que nous te demandons pour chaque chrétien qui, cette semaine, va être un témoin sur son lieu de travail, à l'école, dans les études, à la maison, auprès des enfants. Là aussi, tu veux, Seigneur, nous parler, nous surprendre et nous utiliser. Ton Saint-Esprit n'est pas limité au bâtiment de l'église locale le dimanche matin. Là où tu vois des hommes et des femmes qui ont soif de toi, tu viens étancher leur soif. Tu viens répondre à leurs désirs les plus profonds. Et tu les utilises pour ta gloire, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le peuple dit Amen. Bon dimanche à chacun. Merci pour votre présence, votre participation. Et à bientôt, la joie de nous revoir. Mardi, ne manquez pas ces rendez-vous. Soirée de l'esprit en perspective.